Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous.
Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche.
C'est mon seul espoir.
Mais je ne suis plus une Jedi.
La fête est terminée.
Allez hop, on dégage.
Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse.
Bienvenue au Premier Désordre, émission sur la galaxie de Star Wars et qui lutte tels les rebelles pour exister dans l'immensité de l'espace avec des moyens dignes de la rébellion. C'est parti pour le nouveau désordre des présentations. Cette semaine, nous avons le luxe d'avoir deux nouveaux membres, un nouveau membre en tout cas, et des renforts pour une émission qui sera sous le signe, je vous le dis tout de suite, de la bienveillance. En tout cas, le thème s'y prête un maximum. Rangez vos pistolets laser et vos thermobombes. Ce sera, si tout va bien, un peu plus soft aujourd'hui. Et donc nous pouvons commencer avec ceux qui ne seront pas là peut-être aussi, enfin, à force des choses, nous avons Tony Porgesit qui a donc laissé sa place, alors je pense qu'il pouvait venir aussi mais je pense qu'il avait d'autres choses à faire sur le feu donc il s'est dit bon allez. Je... Donc même s'il était petit de taille comme je disais, il ne prenait pas beaucoup de place durant l'émission. Nous avons Angok Jedi Wookie, champion de la force qui n'est pas là cette semaine, qui continue de flamber ses crédits avec grâce. Mais on le voit même d'ailleurs en ce moment sur Lolo Télévision de Coruscant. Ouais, si tu veux, n'hésite pas. Je vois que notre invité bouge un peu à sabre laser pour pas être embroché direct. Parce que voilà, j'ai récupéré tous les sabres laser de mon fils. Donc voilà, il y en a plus. Hein. Maintenant, on a toutes les couleurs. On a bleu. Enfin, il n'y a pas de mauve.
Il n'y a pas de mauve. Ouais.
Voilà. C'est... Mais bon, voilà, n'hésitez pas si vous voulez ramener du. La table est petite, mais voilà, elle est de plus en plus remplie. Mais nous avons, cette semaine, nous avons par contre Général Majax qui vient pour partager son énergie positive comme dans ses spectacles de force magique et qui est dans l'esprit donc du thème du jour.
Exactly. Tu vas bien ? La magie, du rire, du fun, ça va bien.
Ouais, tout continue dans l'univers de Star Wars, tu parcours encore.
Hein. Un peu dans mon deuil de la fin d'Ahsoka, parce que c'était un bon moment pour moi. Et dans l'attente de la suite, avec impatience, parce que c'est vrai que tu avais dit, on a de la chance d'être dans une période où on a dû... Du contenu régulier,
du contenu, ça, foisonnement de contenu.
Ouais, parce que c'est vrai que souvent j'entendais Star Wars en direct, il y a un groupe depuis plus de 20 ans, et tu sens que des fois ils reviennent comme ça sur cette période où ils disent mais vous vous rendez compte, on n'avait rien, et tu sentais que oui, que c'est sûr que c'est encore autre chose. Autant
pour les vieux comme nous, cette période que les vieux ont connue où on était à l'affût du moindre petit truc et il y avait un petit bouquin, un petit machin.
Puis, au moins, sauter dessus et c'est spécial.
Ouais, même ça, tu en étais content.
Même ça, tu prends, t'as faim, alors tu as
une petite BD Marvel qui traînait.
Et donc, tandis que là, en tout cas, ça.
Là, on est débordé.
Ça suit son compte. Les petits Jedi que tu suivais aussi, ils sont encore. C'est fini ou non, c'est encore.
Non, j'ai pas réussi à convaincre, elle est à fond sur Spidey.
Ah ouais.
Donc là, ça me prend encore. Moi, j'ai une autre passion, c'est Marvel ou les super-héros.
Oui, donc ça te va quand
même. Donc là, c'est super. En plus, Spidey, il est vraiment chouette comme dessin animé. Il valorise les filles. Il y a des dessins animés premier âge qui sont vraiment nuls. Hein.
Oui. Moi, je connais
les
pas.
Il valorise les filles. C'est pas des crimes horribles. C'est vraiment adapté pour l'âge. Mm. Et puis surtout, c'est grâce à leur. C'est dans le refrain de la chanson. C'est grâce à leur connaissance en science qu'ils arrivent à battre les méchants.
D'accord.
Et donc ça valorise l'école.
Ouais. Ah bah. Le truc, ça. Ça c'est parfait. On n'est pas contre, hein, parce qu'effectivement, des fois, la jeune génération, il y a tellement d'univers qui s'amuse sur qui est nonchalant sur beaucoup de choses, donc avoir un peu de contenu qui vient un petit peu voilà pour dire allez essayez de faire les choses bien les enfants, c'est quand même, on n'est pas contre. Bon bah tant mieux en tout cas qu'il y a encore un univers sur deux pour l'instant qui tient bon pour en tout cas même si faut c'est pas évident de en même temps conditionner les enfants sans pour autant tu sens que ça doit se faire un peu naturellement comme ça donc c'est pas évident quand même,
tu regarderas les petits Jedi
voilà c'est ça c'est pas évident au bout d'un moment voilà ils partent faire d'autres horizons. Nous avions peut-être normalement Van de Vos qui revient après avoir combattu des Nils dans la bordure extérieure. J'allais dire, il revient avec nous, mais je pense que c'était hier qu'il avait dit qu'il serait peut-être là aujourd'hui. Donc peut-être que malheureusement, un concours de circonstances ou un changement de programme ou plus de combats l'ont peut-être affaibli pour revenir en tout cas aujourd'hui. Mais nous terminons cette sélection, enfin avant moi-même. Nous avons donc un nouveau membre qui a réussi à traverser la météo rocheuse et cracheuse des météorites, un effet naturel et non dirigé par l'Empire. Car nous sommes quand même dans la saison hiverno-spatio-spatiale en ce moment, donc voilà, c'est un peu plus dur, mais il a réussi à venir jusqu'à vous, et jusqu'à vous et nous, par la même occasion et tout, donc on est heureux d'accueillir notre nouveau membre. Alors, première question qu'on va toujours poser aussi, c'est comment Star Wars est venu en parallèle de ta vie et si tu veux te présenter.
Donc je me présente, je suis Tourambar, je suis un Jedi Zabrak.
Un Jedi Zabrak.
Originaire de Datomir.
Ah ouais, direct, tu viens de Datomir. Hein.
Mais j'ai échappé aux joues des Sœurs de la Nuit.
Ouais, t'as bien fini quoi, ouais, quand même.
C'est ça.
Donc t'as réussi à... Donc t'as quitté... Là, tu revas plus sur Datomir aussi, tu revas t'en...
Non, j'essaye d'éviter, c'est un, ouais. un peu craignos pour moi.
Je comprends. Ouais, ah bah si t'as dû... Je sais pas comment tu t'es parti de là-bas, mais c'est sûr que si, voilà, si t'es un peu corsé pour quitter tout. Et donc Jedi, donc tu disais, ouais, tu fais partie d'un ordre Jedi ou non? C'est Jedi itinérant?
Bah si on doit mettre un label, on ouais. peut dire Jedi gris, Jedi errant, mais Jedi quand même.
Jedi quand même, en tout cas. Voilà. Mais ça fait plaisir de rencontrer des Jedi parce que voilà, comme tu le constateras à l'émission, là nous sommes dans le côté lumineux, je pense. Alors même, moi je me considère comme le côté lumineux, mais j'en suis pas. Donc je pense que voilà, ça ira bien avec le thème de l'émission aussi, parce que nous avons bien entendu toute la partie Sith. Donc voilà, nous avons un empereur Sith, nous avons un Stormtrooper, effectivement.
Mais le pouvoir de séduction du côté obscur est toujours puissant.
C'est vrai, ouais, voilà, c'est vrai qu'on on avait fait une émission où on disait justement, on se demandait si on préférait être rebelle ou impériaux, mais bon, quand il faut faire des choix, ça partait quand même plutôt vers les rebelles, quand même, j'ai l'impression, même si le côté empire est séduisant. Et donc, comment tu as découvert Star Wars ou tout petit ou...
J'ai découvert Star Wars très jeune, avec des amis plus âgés qui avaient déjà vu Star Wars, donc j'ai commencé de façon un peu non conventionnelle par le retour du Jedi.
Ouais, bah c'est quand même un ancien quand même.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas moi qui ai choisi de commencer Star Wars, et on m'a mis le retour du Jedi.
Ah, ok, d'accord.
J'ai beaucoup aimé les monstres, le Sarlacc, le Rancor.
Ouais, c'était quand même.
Puis on voit du pâté pour démarrer, quoi.
Oui.
Quand même,
oui.
Plutôt le tout bon film.
Ouais, parce que je veux pas dire de bêtises, mais t'es quand même globalement assez jeune.
Oui.
Tu sais ce que t'as quel âge t'as...
Je suis de 94.
Ouais, 94,
j'ai 29 ans là.
Ouais, donc c'est pour ça, c'était vraiment des...
Et le retour du Jedi, j'ai dû le voir quand j'avais 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça.
Ouais.
Là, c'est les bons âges.
Ouais, bah ouais, pour découvrir l'univers et tout. Et donc ça t'a tout de suite plu ou non? Tu t'es dit, oh, c'était sympa et...
Ça m'a tout de suite plu parce que même si c'est de la science-fiction, il y a quand même un côté fantasy très fort dans Star Wars. Qui est notamment présent dans le retour du Jedi avec les monstres.
Oui.
Et moi, mon premier univers fictionnel dans lequel je me suis vraiment immergé, c'est le monde de Tolkien avec Bilbo le Hobbit. C'est le premier livre sans images que j'ai lu.
Ok.
Donc ça m'a parlé tout de suite de voir des gens avec des épées, des créatures.
Oui. Puis c'est vrai qu'on parlait beaucoup du côté fantasy de Star Wars et donc comme tu dis là, toi ça t'a fait la transition idéale pour t'intéresser aussi à cet univers vu que c'était comme tu dis tu viens plus de la fantasy quoi.
C'est ça.
Ouais, et donc t'as regardé les autres, tu les as vus tout de suite ou après ou non?
Alors,
bien plus tard.
J'ai un parrain qui est très à fond dans Star Wars depuis toujours, mais plutôt vieille école.
Ok. Bon, tu lui donnes dans le podcast, hein, tu lui donnes le tu feras la pub alors.
Du coup, quand il a appris que j'avais vu le retour du Jedi, il m'a fait regarder les autres dans le bon ordre.
Ouais. Le premier bon ordre.
Il y a plusieurs informations
à la maison. Mais...
C'est ça. Ok. Ouais. Donc après, comme ça t'as pu continuer.
C'est mon parrain qui a fait mon éducation autour de la guerre des étoiles.
De la guerre des étoiles et tout. Bon, c'est bien aussi d'entendre la guerre des étoiles, ça fait toujours plaisir de pour alterner entre les deux noms et tout. Et la prélogie, alors tu l'as suivie ou pas, non?
La prélogie, je ne l'ai pas vue à la sortie, sauf La Revanche des Sith.
Ok, donc encore une fois le troisième. Ce qui est marrant, c'est que t'as La Revanche des Sith, c'est le troisième aussi. Ouais, voilà,
oui, donc, mais je veux dire, j'ai vu les autres à la maison.
Okay. Ouais,
et après, j'ai vu La Revanche des Sith au cinéma.
Au cinéma,
ouais. Ça t'a bien envoyé du pâté aussi.
Oui, ouais. Oui, en plus, ça commence très très fort, direct. Et...
Ouais. Non, c'est vrai que le troisième, autant j'avais fait la fine bouche à l'époque, quand j'étais sorti du cinéma, maintenant, quand je le revois, il y a ce côté, cette noirceur qui fait du bien, que tu retrouves un peu...
Je l'apprécie beaucoup aujourd'hui aussi, alors que j'ai un de mes meilleurs amis qui n'est pas du tout fan de Star Wars et qui se joue de moi souvent sur mon nerdisme Star Wars. Et pour me narguer, il dit que le 3, c'est son préféré.
D'accord.
Et à l'époque, ça me trigger en fait.
Ouais, ouais, d'accord. Ouais.
Mais maintenant, non, je trouve que le 3 est très bien. Ça peut tout à fait être un très bon préféré.
Mmh. Ben oui, 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 oui.
Moi, c'était pareil, j'étais un peu fine bouche, mais moi, j'étais fine bouche sur l'après-logie.
Ah oh, oui, 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 c'est oui. Pareil, hein, pareil.
Et je l'ai revu des années après, et maintenant, je trouve le combat, surtout le combat
Obi-Wan,
il est ouais. tellement extraordinaire.
Bien sûr. Il
est... De temps en temps, je me le remets sur YouTube.
Ouais,
juste pour plaisir.
Mais dans la chorégraphie, mais aussi dans les sentiments et les émotions qui transmet.
Puis quand on en reparle comme ça aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un combat qui dure très longtemps et pourtant je ne m'ennuie pas en le regardant.
Il me semble que c'est le plus long duel au sabre laser de toute la saga.
Puis j'ai l'impression que
qu'on construit tout, enfin j'exagère, mais on construit la prélogie pour arriver à ce moment-là.
Oui, 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 bah, ça fait du bien parce que c'est un peu le point d'orgue, donc c'est vrai que si ça aurait été raté, le soufflet n'aurait pas été le même et tout, alors que là on peut vraiment finir en étant apaisé quand même avec ce combat là. Ben là c'était marrant, je sais plus si t'étais là, Général Majax, mais il y avait Absolute qui avait fait une vidéo sur l'épisode 3, donc c'est un youtubeur qui parle de Star Wars, et si vous remontez dans les dernières vidéos qu'il a faites ici récemment, il en fait un spécial où il explique beaucoup d'anecdotes sur l'épisode 3, et c'est vraiment cool. Et tu vois des passages où ils sautent en train de combattre sur des parties de décor et tout ça. Et ce qui est cool quand tu vois des making-of comme ça et que les mecs expliquaient, tu demandes à quel point tu sens que les mecs étaient à fond, tu sens qu'ils essaient de donner ils essaient de vivre au maximum. Enfin, c'est toujours marrant de voir le cinéma parce qu'il y a le produit fini qu'on reçoit nous et qu'on juge en tant que terminé. Et par contre, toute l'énergie que les gens, tu vois, mettre pour essayer d'aboutir à un résultat. Et des fois, c'est tout aussi beau.
Décor, quoi. C'est ça.
C'est ça. Je trouve ça tout aussi beau de voir des gens concentrés en faisant des recherches, en se disant, tiens, où tu vois des bouts du combat qui sont encore en train d'être mis en boîte, alors que toi, tu sais que tu as déjà vu le film terminé et tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment, si vous aimez l'épisode 3, une fois que tu finis cette vidéo, et ben ça m'a encore ressorti avec plus d'estime pour l'épisode. Et je me rends compte que je serais content de revoir beaucoup de maintenant avec les années, de revoir toutes ces bonus de autour de l'univers de la prélogie, tu vois, pareil, parce que au début j'étais pas spécialement fan de la prélogie, mais maintenant avec le temps qui passe, c'est vrai que force est de constater qu'elle a une place tellement importante dans l'univers que voir comment elle a été construite aussi, ça fait plaisir, quoi. Donc, en tout cas, Turambar, c'est ça, hein.
Turambar.
Turambar. Et en fait, ça vient...
vient de Tolkien.
Ok, d'accord, c'est pour ça. Non, tu vois, alors c'est que dans notre groupe, il y a pas assez de... Parce que personne n'a réagi pour dire, quand tu nous l'as dit, pour dire, mais si...
Ouais, je me suis dit que s'il y avait un connaisseur, ça
t'a expliqué tout
peu...
de suite, quoi, t'as mis tout de suite le truc.
En tout cas, on est heureux que tu nous rejoignes sur le premier désordre.
Moi, je suis heureux de vous rejoindre. Force.
Ben voilà, donc voilà, surtout qu'en ce moment, on perdait pas mal de monde, parce que comme on le dit toujours, tout le monde a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir du temps libre pour venir pendant le podcast. Et je me dis que pour nos auditrices et auditeurs, c'est toujours sympa d'entendre des nouvelles voix aussi, parce que c'est tout de suite une autre manière de percevoir Star Wars en plus. Et donc, nous avons aussi le retour du droïde GA98. Enfin, son retour était déjà acté la semaine dernière, mais il continue d'être bien présent. Merci à Middle qui nous a permis toujours à reprendre GA98 pour l'émission. Et moi-même, Zach Logitorien, brocanteur de l'espace. Aujourd'hui, alors j'ai pris le truc à la volée parce que je suis parti avec ça parce que je suis brocanteur. Donc voilà, j'avais pas le temps de réfléchir. Je vous ai pris des bassines de Zonk. C'est des bassines en promatière, ça permet de les faire dériver dans l'espace et de les envoyer au hasard en vitesse lumière pendant 2 minutes. Donc voilà, ça n'a pas vraiment je n'ai pas encore découvert l'utilité de...
Ah, pratique si tu veux te débarrasser d'un truc quand tu es prêt, c'est en contrebande.
C'est assez grand, ouais. Oui.
C'est en contrebande et là, soudainement, tu as besoin de te débarrasser d'un truc vite.
Ah, c'est vrai, voilà. C'est assez grand quand même.
Enfin, sachant qu'on condamne fortement. La contrebande quand même.
Hein. C'est vrai. Ouais. Bah,
faites pas ça à la maison.
Nous, étant du côté de la lumière, moi je suis brocanteur, je ne me lance pas dans la contrebande. J'ai vite vu qu'effectivement, comme toi sur Datomir, si d'un coup on commence à commencer avec la contrebande, ça devient vite dangereux dans notre univers.
Après, la contrebande sous l'Empire a sûrement sauvé des vies.
Ah oui, oui. Non, mais il faut le sentir. En tout cas, quand on fait de la contrebande, il faut. Moi j'avoue qu'effectivement, je ne le sens pas. En tout cas, c'est 150 crédits la bassine, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Hein, donc comme ça, on peut mettre
un bonhomme.
Alors je ne le précise pas, mais
tiens, on peut mettre des alliés. Un Wookiee dedans.
En 2 mètres, oui, 2 mètres sur 2 mètres. Une fois qu'il est un peu plié, il rentre et tout. Bon, en tout cas, voilà, on demandera à Ngok, on demandera de faire un essai, on lui demandera de rentrer 2 secondes dedans pour voir si ça passe. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Bon, vous me direz en tout cas si ça vous tente ou pas.
C'est tentant quand même.
Je sens. Et puis ça fait un effet magique quand même, non ?
C'est mieux que la poussière, oui, la poussière spatiale que tu as essayé de nous fourguer la dernière
fois. Ouais, je sais plus c'était quoi, mais c'est vrai que c'était pas. C'est pas fameux. J'ose croire qu'un jour j'irai rechercher tous les objets, je ferai un livre sur les meilleurs objets que j'ai tenté de vous vendre dans l'occasion. Et on peut commencer avec l'actualité de Star Wars. Est-ce que vous avez déniché, marchandé, contrevolé des actualités pour Star Wars ou votre actualité autour de la guerre des étoiles cette semaine? Donc je sais pas qui veut commencer.
Après il y a les confirmations, vous avez peut-être déjà parlé quoi, mais les confirmations Ahsoka saison 2.
Ah non, enfin attends, c'était quand ça?
Je sais plus, mais ça a été confirmé très. Moi j'ai vu un post passer la semaine dernière.
Moi j'ai très peu suivi depuis la fin de saison de Ahsoka, donc.
Ok, ouais.
Ils ont confirmé qu'il y en aurait une 2 et tout. Donc
ça, ouais, non, mais tu m'annonces quand même, parce que j'ai pas vu passer ça, tu vois.
Et je pense, après, j'ai
pas. Bah non, mais. On prend comme toute information, tout
et
est.
Et puis il y avait une confirmation, mais ça peut-être qu'elle avait déjà été faite. Moi je l'ai vu que cette semaine, c'était la confirmation de Andor saison 2 aussi.
Ouais.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
Alors je suis quand même content que tu me dises qu'il y a une confirmation, parce que normalement elle est commencée hein, déjà. Mais bon, il serait encore capable de l'arrêter en cours de route, donc.
Je connais pas trop les chiffres sur Andor, mais ouais. C'est clairement ce que j'ai préféré.
Donc toi aussi, t'as adoré Andor et tout. Ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est une proposition complètement différente du reste, et que j'espère, comme on disait, que ça donne envie que chaque nouvelle série aurait son état d'esprit, et comme ça, pour X raisons, je comprends qu'Andor, ça, certaines personnes le trouvent bien, mais qu'ils préfèrent du Ahsoka et tout ça, donc. Mais c'est vrai que voilà, ça fait du bien quand t'as du Andor.
Je n'ai même pas préféré. Je sais pas, c'est comme choisir entre un bon burger et
un grand restaurant.
Pizza, moi j'aime tout. J'aime les pizzas, j'aime les burgers. Donc j'ai adoré Andor dans sa version réaliste, plus adulte que vous avez kiffé. Ouais. Mais j'ai passé aussi d'excellents moments sur Ahsoka. Mais c'est pas la même chose, t'as pas la même chose dans quand tu manges un burger.
C'est pour ça que je précise que j'ai envie d'avoir du contenu vraiment avec des tonalités différentes pour que comme ça j'ai moins à râler si je me tape 3 fois du Ahsoka.
En fait, avec Ahsoka, on a vraiment l'aspect mythologie classique de Star Wars.
La fantasy, comme tu disais tout à
l'heure. Voilà. Mais dans Andor, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a cet aspect de réalisme et. On voit la vie des gens dans cette galaxie en fait. Et beaucoup de gens ont critiqué Andor en disant qu'ils se sentaient pas dans Star Wars, que ça aurait pu être n'importe quel univers de science-fiction. Mais personnellement, moi, au contraire, le fait que on découvre un peu la vie des gens normaux dans la galaxie lointaine fait me sentir justement encore plus dans Star Wars.
Et moi, je veux, tu sais, donne-moi des supermarchés dans Star Wars, donne-moi des...
La vie quotidienne.
Voilà, la vie quotidienne. Plus tu te rapprocheras de les mecs doivent payer le parking pour venir garer leur speeder, et avec un peu de politique, avec... en fait, ce que j'aime bien, c'est... Peut-être, c'est aussi tout ce côté, tu sais, je suis pas un grand amateur de politique, mais ce que je trouve intéressant dans la politique, c'est le fait que tu construis quelque chose pour qu'il y ait une vie commune, en fait.
Donne de la texture au monde.
Bah oui, tu dis.
De l'épaisseur.
Ça l'ancre dans le réel, véritablement. C'est ça. Parce qu'on sait que, la vie réelle, c'est pas un conte de fées, les gens qui gagnent pas à la fin, etc. Donc, moi, j'aime bien aussi ça, cette version-là. C'est la continuité, cette offre-là. On va parler offre, on va parler marketing, désolé, je sors des gros mots.
Ouais,
cette offre-là de Disney, c'est la continuité de cette grosse claque qu'avait été Rogue One. C'est ça, hein?
Ouais, c'était Rogue One.
Qui était une claque, quoi, parce que c'était ancré dans le réel. Il y avait un petit peu de fantasy quand même, mais on était vraiment dans le réel. Moi, là où je rebondis aussi sur ce que tu disais, on en avait parlé ultérieurement, c'est que je trouve que les deux se valorisent. La version ultra réelle, déjà, je prends un kiff. Génial en regardant Andor, en plus il y a des casses, des cambriolages, de la rébellion, de la politique, vraiment tout ce qu'on veut, de la misère, de la détresse, des sentiments qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir traiter de cette manière-là, de cette manière vraiment, vraiment réelle. mais ça, ça valorise et ça sublime aussi le côté fantasy. Je vous avais dit, voilà, la scène à la fin de Rogue One, quand il y a quand Vador arrive, tout change, les rapports de force changent.
Oui.
Avant, ils sont tous à peu près à même niveau, ils se battent comme des humains normaux et tout.
Ah,
tout et du coup, ça sublime le côté fantasy,
oui,
parce qu'au moment où Vador arrive, ils se font tous défoncer et c'est pour montrer attention.
Lui,
quand on arrive dans le moment fantasy,
ouais,
on est quand même dans une dimension supérieure.
Ah, mais t'as raison. T'as raison, c'est ce qu'on perd quand on est que dans la fantasy où des fois on veut ce rapport d'échelle, comme tu dis, c'est comme un petit vaisseau face à un très gros vaisseau. On a besoin aussi des changements d'échelle pour mieux profiter du récit. Ouais.
Clairement, parce que quand Vador arrive dans ce contexte-là, ben, il est vraiment sur un piédestal, alors que moi, j'ai adoré Ahsoka. Hein. Mais quand on a Ahsoka, Sabine,
ouais, ça fait un peu beaucoup, ouais.
Tous ces personnages-là qui sont très puissants et qui, à qui on veut donner cette grandeur, mais vu qu'ils sont tous les uns sur les autres.
Et puis tous à ce même niveau-là, écoute, tu comprends. Enfin voilà.
Ouais. Ouais,
mais du coup, ça valorise tout ça. C'est le fait de valoriser Vador comme ça, ça le valorise aussi dans ses versions fantasy précédentes, où ça met en avant encore plus sa toute puissance. Et donc tu te dis, ah ouais, donc quand j'ai regardé 4, 5, 6, on était vraiment sur des combats de titans. Et,
ouais,
c'est, et c'est pas pour rien si ces quelques personnes changent le destin de galaxies entières.
Oui, oui, pourquoi on les suit eux et pourquoi c'est important qu'on est centré un peu sur eux. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis content quand un récit arrive à montrer un peu tous ces genres de personnages. Et c'est pour ça que même dans la trilogie classique, j'étais content d'avoir Han Solo qui est pas du tout un forceux et qui a pas du tout le rapport à la force et tout ça, parce que on a besoin, je pense, de ou Finn qui est simplement Stormtrooper et tout ça. Donc c'est je pense que de toute façon, ouais, et puis comme tout récit, hein, à chaque fois il y a toujours, même dès qu'il y a un récit fantastique où il y a des pouvoirs, faut toujours inversement une personne un peu lambda à côté pour donner le change, quoi.
Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, t'as cette espèce de moment aussi. Alors ici, je vais exagérer, hein, je vais pousser le trait, mais en fait, Luke, il sert à rien dans la victoire Retour du Jedi. Enfin, il gère son truc avec son pater, ok, très bien.
Oui, 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 oui.
Il se débarrasse de l'empereur.
Oui, oui, oui.
Mais ceux qui font péter le machin, c'est la rébellion et c'est des êtres humains normaux qui sont au sol. Qui sont,
oui, oui, comme tu dis, c'est bien aussi que ce soit pas qu'un individu. Enfin, à l'inverse, on est content que, comme tu dis, il y a des séquences pour nous montrer qu'un individu pèse plus lourd que les autres, mais on est aussi content que tout n'est pas toujours dans ses mains. Pour le dessin de la galaxie, quoi.
C'était vraiment bien écrit.
Mais ouais. En tout cas, voilà, en énergie positive, comme on dit pour cette semaine. Je sais pas s'il y a d'autres choses que vous avez vues, suivies.
Bon, c'est pas vraiment de l'actualité, mais
c'est ton actualité. Hein.
Je vais plutôt parler de ce que j'attends le plus, peut-être.
Ok, ouais, c'est possible aussi. Hein.
Et je me suis pas re-renseigné récemment à propos, mais c'est plutôt côté jeux vidéo. J'avais entendu parler d'un éventuel remake du RPG classique Chevalier de l'Ancienne République.
Ah oui, Old Republic.
Je sais pas si c'est.
Ouais. Je sais pas si c'est encore.
Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi c'est.
Mais en jeu vidéo ou en série.
En jeu vidéo.
Parce que moi, on a entendu un peu parler aussi avec Knights of the Old Republic, qui est peut-être un projet qui est lié.
Oui.
À KOTOR.
C'est la même époque déjà. Ouais.
Et moi, je suis très curieux aussi de comment ils vont traiter. Ils vont forcément l'adapter, peut-être à la Filoni. Mais je me dis, l'adaptation va arriver, je suis très curieux de voir comment ils vont traiter. Parce que c'est vrai que c'est mythique, KOTOR.
Ouais, KOTOR,
je me demande si ça sent pas le roussi quand même, parce que j'ai eu plusieurs fois où le truc avait. Et je me demande si les dernières nouvelles n'étaient pas que c'était quand même annulé, donc à vérifier.
Faudrait que je re-regarde. Mais j'avais beaucoup aimé ce jeu, l'importance que peuvent avoir les discussions avec les personnages. Au final, je pouvais passer une session de jeu à faire juste 2 heures de dialogue.
De dialogue, ça c'est génial. Bah, les jeux vidéo, pour ça, c'est bien d'avoir. T'as jamais autant dans un jeu vidéo que le nombre de lignes de dialogue. Enfin, tu peux discuter. Moi, je trouve ça génial de discuter avec des personnes. Et même, j'adorais. C'est pour ça que j'adorais les point and click et tout à l'époque, c'est de pouvoir même. Des fois, là, je sais pas si tu pouvais le faire, mais choisir tes réponses, tu sais.
Ouais, c'est
de
ça.
Parler de certains sujets.
Et c'est pour ça que le dialogue.
Tu peux choisir ton alignement.
C'est ça, en fait, tu as l'alignement de ton personnage et chaque membre de ton groupe, parce que tu as un groupe de 9 personnes au maximum, chaque membre de ton groupe a un alignement qui va s'éloigner ou se rapprocher du tien en fonction de ta relation avec le personnage. Et si tu développes suffisamment bien les relations avec chaque personnage et ton influence sur eux, tu peux débloquer des segments de jeu ou des segments de dialogue totalement inédits. D'une partie à l'autre, ça peut être très très différent.
Et les deux étaient bien, non ? C'est ça.
Les deux étaient bien.
Alors, joué aux deux.
Les gens, l'avis général, c'est que le 1 était mieux parce que le 2 n'était pas tout à fait fini, il me semble. Ah oui. Je sais plus.
Ils ont dû finir en châssis pour faire un peu de business. Après, il y a eu SWTOR aussi à Star Wars Online.
J'ai joué un petit peu, mais moi, le seul MMO sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps, c'est Dofus. Les MMORPG en 3D, c'est moins mon truc. Je trouve très frénétique l'usage des capacités.
Moi, j'ai kiffé, j'ai joué plusieurs campagnes.
T'avais joué pas mal aux jeux en ligne.
J'ai adoré. Mais c'est un moment où déjà, je jouais plus que seul, parce que le jouer en MMO et tout, etc., il y a les interactions sociales, donc du coup, c'est aussi une contrainte supplémentaire en termes de temps.
Oui.
J'avais plus le temps, je pouvais jouer qu'une demi-heure, une heure. Et donc finalement, j'ai fait que des campagnes solo.
Bon, c'est bien.
Et c'est là où
et c'est super, parce que c'est hyper intéressant. Tu peux jouer côté Empire, tu peux jouer des guerriers ici, tu peux jouer. Et il y a des scénarios. Moi, j'adore. Je jouais limite, comme tu dis, plus pour le scénario.
En fait, le lore, le point fort de ce jeu et la raison pour laquelle je l'ai testé, c'est que le lore est incroyable, surtout si on aime bien KOTOR. Et cette époque-là de Star Wars.
Oui, c'est aussi un peu le.
Parce que ça développe le personnage de Revan, de l'Empire Sith,
dans une autre
galaxie.
Ouais, donc c'est vraiment connecté, très fort connecté. Je savais que c'était la même période, mais je pensais pas qu'au niveau histoire, ça
se suit presque directement avec les KOTOR.
Ça
suit 20
ans près, quoi, c'est ça, un truc comme ça.
Ah, c'est bien, ça c'est bien.
Et le personnage de Revan, il est juste incroyable, je trouve. Il y a un roman sur lui.
Sur lui, tu l'as lu.
Ouais, que j'ai adoré.
Tu lis pas mal de romans Star Wars ou non? C'est simplement autour des
quelques
persos.
Quelques-uns. En général, c'est des persos ou des périodes que j'aime bien. Ouais. J'ai lu Tarkin.
Ah, tu as lu Tarkin aussi, t'as bien aimé?
Ouais, j'ai beaucoup aimé.
Ah, il était top. Hein.
J'ai lu Tarkin, j'ai lu Revan, j'ai lu la trilogie de Darth Bane.
Ça, je l'ai pas encore lu. Il paraît que c'est bien
c'est
aussi.
C'est vraiment bien, j'ai trouvé.
Je crois que j'ai vu en BD ça. Le Darth Bane, c'est le fondateur de la règle des deux des Sith.
Ouais, exactement.
Et t'as pas
la BD est pas mal aussi.
T'as pas lu celui avec Dark Sidious aussi
Darth Plagueis.
Oui, Darth Plagueis.
J'ai lu ça. Ouais,
tu l'as lu aussi, ouais. Voilà.
Et après, j'ai lu, je me souviens plus des titres, mais des livres sur les commandos de la République.
Ouais, il paraît que c'était sympa aussi, non, ça aussi.
Ouais, c'est sympa. Le jeu est très sympa. Star Wars République Commando. Okay.
Ouais. Bah, tu seras là pour un spécial pour Noël. Le jeu vidéo, on l'a déjà fait en fait. Je confonds, je vais pas dire de bêtises. Vous voulez faire un. Non, je pensais que là, on l'avait pas encore fait le jeu vidéo, mais je pense. Mais bon, en tout cas, voilà, ça sera l'occasion une fois si tu veux reparler.
On peut refaire, on est chaud, hein, des nouveaux sujets.
Ouais,
déjà fait avec une nouvelle vision.
Une nouvelle vision. De toute façon, puis ceux qui étaient pas là, hein, de toute manière, si c'est pas les mêmes intervenants, il y a toujours des choses.
J'avais une question, puisqu'on parlait des projets. Est-ce que le Rogue Squadron, c'est...
Le jeu qui était sorti il y a quelques années.
Non, tu sais, c'était une bande dessinée sur...
Sur les X-Wing.
Sur les pilotes de X-Wing. Juste après la nouvelle arrivée de la Nouvelle République.
Ouais.
Une dizaine de BD, elles sont passionnantes, parce que limite, t'es dans Top Gun, quoi. En fait, tu suis...
Donc toi, t'as lu les BD de cette période-là.
Ah ouais, Rogue Squadron, ça vous dit rien, vous?
Moi, j'ai lu, parce que c'est adapté des romans, non? Je pense que c'est parti. Moi, c'était tu suivais général
anti-IS.
Anti-IS.
Et en fait, ils créent une équipe et ils sont un groupe et ils doivent ils font des actions en général. Et il y a une méchante qui s'appelle Izan Izar, non, c'est pas.
De méchant, mais oui, c'est un peu ça. En gros, tu suis son escadrille et tout, avec des histoires de...
Et c'est
ancré dans le réel.
Il représente...
On parlait des trucs ancrés dans le réel. T'as très peu de Jedi, très peu de fantasy. Là, ils sont...
Puis je sais plus si c'est ça que tu... Parce que oui, voilà. En gros, ils représentent la Nouvelle République. Et donc, ils doivent choisir les équipes, mais ils sont obligés de prendre telle race d'extraterrestres avec eux, parce qu'il faut qu'à la fin il y ait une sorte d'équité dans l'équipe des X-Wing. Donc je sais pas si ça te dit quelque chose, si c'est un peu ça ou tu te souviens.
Je me souviens plus de ça, faut que je les relise, mais j'ai souvenir de.
Parce que je pense qu'ils ont été adaptés.
Aussi. Et comme on disait tout à l'heure, vraiment là, ancré dans le réel. Là, tu suis. Ça pourrait être des escadrilles de l'armée.
Puis ce qui est génial, c'est que moi j'ai mis longtemps avant de lire cette partie-là en roman, parce que justement je me dis bon, ok, ça va être sympa de suivre des pilotes X-Wing, mais entre d'un coup un truc qui en impose et puis suivre, je me suis dit tiens, ça va peut-être être fatigant ou un peu lourd à lire. Et en fait, quand je les ai lus, ouais, je les ai tous pris. En roman, il y a 7 ou 8 tomes, et, ou 7 tomes. Et effectivement, une fois que tu es dedans, tu t'attaches vachement à l'équipe, c'est bien écrit. Le père Antilles, je le connaissais vaguement comme ça. Et puis d'un coup, grâce à ces romans-là, il est devenu pour moi un personnage beaucoup plus iconique grâce à ça.
Donc. Bah, grâce à ces BD-là, il est pareil, il a pris un rôle. Il était exploité dans les BD dont vous avez parlé, là, que je lisais quand j'étais gamin. Qui était faite par Marvel, écrit par Chris Claremont, qui comble un peu entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Il était assez mis en avant, mais là il est sublimé, et même ils sont tous sublimés. Et il y avait eu une rume, enfin pas, ils avaient annoncé un truc comme ça avec, je crois que c'est Bigelow, je sais plus quoi, une réalisatrice qui devait tourner un film sur ce
oui, truc-là. Oui, si. Il paraît que c'est au frigo. Mais que c'est pas complètement. Alors, ce qui est malheureux, parce qu'encore une fois, il faut y mettre des étoiles dans les yeux quand ils disent, bah tiens, ça va changer de ton, ça va changer tout, mais encore une fois, maintenant, c'est mis un peu de côté, alors on sait pas trop pourquoi, elle avait d'autres trucs sur le feu, et en même temps, je pense que Disney s'emballe un peu vite, et après, ils se rendent compte que, pour finir, ils ont d'autres choses sur le feu, et que j'ai l'impression qu'ils doivent faire des choix, et que donc, ils décident de mettre des choses, à retirer certaines choses qui étaient prévues, mais à part que t'as envie de dire, bah ouais, mais vous avez communiqué maintenant pour que on soit au courant, donc
parce il y a deux ans ou quelque chose comme ça, ils ont communiqué sur une douzaine de séries,
oui, et puis il y en a bien entendu qu'ils ont
3 ou 4 projets de films,
comme ils disaient, c'était pour les investisseurs, tu sais, en gros c'est pour dire, bah regardez, on va faire des trucs l'année qui arrive, donc vous inquiétez pas, on va gagner de l'argent et tout. Et en fait, donc résultat, ils ont annoncé plein de trucs, il y a des choses qui disparaissent. Et bien entendu, bah, ils vont pas trop avouer que pour l'instant c'est plus du tout. Donc ils laissent un peu le poisson se noyer comme ça. Mais c'est frustrant, quoi. C'est frustrant.
Ils en ont fait quand même vers à moitié plein. Hein. Ils en ont fait quand même beaucoup.
Oui.
Sur tout ce qu'ils avaient prévu, ils continuent d'avancer en tout cas sur ce qu'ils avaient dit. Donc ils n'ont pas fini complètement. C'est vrai qu'effectivement, Skeleton Crew en faisait partie. Parce que c'était pas le même nom, c'était mais c'était un autre nom. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, ils sont en train de cocher les cases globalement des séries qu'ils avaient indiquées. Effectivement, ils sont en train de remplir les cases, quoi. Mais bon, ça m'embête quand même que des fois, t'as des logos et que d'un coup, un univers qui a été proposé disparaisse complètement. Moi, je croise toujours Lando, mais
là, je crois que c'est en train d'arriver beaucoup plus fortement sur Marvel que sur Star Wars. Je pense que Star Wars doit rester dans leur dynamique. Et doit être performant, parce que pour une deuxième saison d'Ahsoka, une deuxième de Andor, on dit que tu vois on sait que c'est des segments un peu de marché différents, et donc ça doit fonctionner. Là, Marvel, c'est un peu plus dur. Là, par contre, ils sont en train de trancher la deuxième. La deuxième phase est plus dure.
Disons qu'en plus, ils étaient quand même plus le plein phare était sur Marvel, et Star Wars était derrière quand même malgré tout. Donc c'est ça qui sauve.
Ouais, il y avait beaucoup plus de films.
Et puis j'ai l'impression que Star Wars, ce qu'on peut espérer, c'est que ça n'a pas pris comme Marvel, vu qu'ils ont essayé de redémarrer du Star Wars, mais que ça reste toujours un peu en dents de scie. Donc j'ai l'impression que ça les a un peu calmés aussi. Sinon, si Star Wars aurait vraiment surperformé avec la post-logie, je pense que le mieux, ce qu'on puisse espérer, c'est que justement, elle a quand même divisé. Parce que je pense que si elle aurait superformé, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus encore de contenu.
On aurait eu un 10, 11, 12 déjà.
Ouais, voilà aussi. Ouais, donc voilà. Donc c'est très bien que.
Peut-être moins d'exigences aussi de la part de certains fans.
Oui. Ah bah si tout le monde aurait. On aurait tous été en. C'est parce que là, on est tous. C'est très compliqué, les fans Star Wars. C'est ce que je pense qui sauve Star Wars, c'est qu'en fait, c'est très morcelé en fait. Là où Marvel, j'ai l'impression que. Les gens sont un peu plus. Alors, même si chacun doit avoir son avis, tu vas peut-être mieux pouvoir nous le dire, Général Majax, mais j'ai moins l'impression qu'il y a des dissensions dans les univers qui sont. Si, ah, si, ouais.
Il y a un truc, par exemple, t'as une série qui est sortie. De toute façon, déjà, une sortie avec un personnage féminin héros.
Ouais, déjà. Ah oui,
et ça,
oui.
Je trouve qu'on l'a moins ressenti sur Ahsoka s'est fait friter, mais sur d'autres points. Tu vois, point d'ancrage. Chez Marvel, dès qu'ils sortent un truc avec un personnage, t'as toute une ribambelle d'incels qui arrive et qui viande le truc. C'est arrivé avec Captain Marvel et c'était complètement injuste.
Avec She-Hulk.
Avec She-Hulk. Et donc, ça, c'est la fameuse partie qui est visible sur les réseaux mais qui ne représente pas la globalité du ouais, marché en général. Dans les deux cas, donc She-Hulk comme dans Captain Marvel, il y a une très mauvais traitement sur les réseaux sociaux, avec une partie négative qui s'exprimait, des incels qui s'exprimaient, et en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, ils ont annoncé la suite de She-Hulk, alors qu'elle était très très clivante. Moi, j'ai adoré cette série, mais elle est un peu folle. Et la suite de Captain Marvel qui va bientôt arriver.
Bon, comme quoi, voilà, les grands univers engendrent beaucoup d'avis, effectivement, et de
beaucoup de passion.
Et de passion et de frustration par la même occasion. Je ne sais pas s'il y a d'autres news.
Juste pour revenir très rapidement sur les jeux vidéo, mais un projet dont j'avais vu un trailer il y a quelques temps, c'était par ceux qui ont sorti Detroit Become Human et Heavy Rain.
Attends. Oui, la bande-annonce qui était sortie, le Quantic Dream.
Quantic Dream, qu'ils avaient Star Wars Eclipse, il me semble. Et alors, on ne voit pas grand-chose dans la bande-annonce, mais ayant joué à Detroit, je serais bien chaud d'un gameplay comme ça sur un jeu Star Wars, vraiment axé narratif.
Qui est très narration, pour le coup, effectivement, aussi. Ouais. Et donc, ça serait une bonne corrélation avec les choses que tu as aimées. Comme tu disais dans les jeux vidéo, avec beaucoup de narration et c'est des interactivités plus soft aussi. Moi, je sais que Quantic Dream, j'ai jamais trop joué et tout, mais moi, ça me va aussi ce côté. En tout cas, j'aime bien le côté où la narration prend le dessus sur le gameplay.
Le gameplay est pas fantastique.
Mais c'est des œuvres de narrative, quoi. C'est plutôt raconter une histoire avec quand même de l'interaction, parce que c'est le plaisir des jeux vidéo et que tu peux toujours avoir ce côté choix multiple, etc. Ok. Okay. Moi, j'avais vu, il y avait des figurines cosmiques en un livre qui est donc de Stéphane Faucourt et Yann Leroux. Donc, ils ont sorti, je ne connaissais pas du tout, ils ont sorti aussi un autre livre qui s'appelait Plastique Galactique. Donc, c'est toutes des photos de figurines de vintage. Donc, c'est 240 pages, un petit format de livre. Donc, vous avez ce qui est bien quand tu n'as plus le temps, l'énergie, l'argent ou la place pour collectionner. C'est un livre qui regroupe toutes les figurines. Alors, avec Préhens, j'avais lu qu'ils avaient aussi... des fois il y a les boîtes des jeux ou des etc. Enfin, pour les autres livres qu'ils ont sortis, j'ai pas vu le prix, mais donc voilà. Donc si vous voulez, moi j'aime bien encore tous ces livres qui, même maintenant, je sais pas, en Tops avait sorti des livres avec tous les autocollants qu'ils avaient sortis Star Wars, et pareil, il y avait un livre qui recueillait tout. Donc je trouve ça toujours sympa qu'à un moment, quand tu sais que tu feras jamais une collection complète d'un truc, t'as un livre qui regroupe tout ça en photo. C'est sympa. Aux États-Unis, il y a le coup d'envoi pour la phase 3 de la Haute République aux États-Unis qui a démarré. Je pensais que c'était déjà démarré pour le coup, mais là il y a des comics qui sont sortis. Donc la dernière partie de la Haute République qui part aux États-Unis. Donc voilà, donc j'espère vraiment que qu'elle sera bien, parce que j'espère que ça se terminera en beauté, parce que c'est quand même une partie que moi je trouve ça intéressant. J'ai, pour les 40 ans, c'était les 40 ans du Retour de Jedi, j'ai quand même regardé les 40 ans du Jedi, les 40 ans. À chaque fois, je m'étais planté, je me replante ici. Ça m'a fait plaisir de revoir des fois un peu les films de la trilogie classique, parce que quand ça fait très très longtemps que tu les as pas vus, ça donne vraiment une sensation bizarre, parce qu'on est tellement habitué maintenant aux nouveaux effets de la dernière postlogie ou des séries qu'on a goûtées, tout ça. Donc c'est toujours sympa de revenir vers du classique et de voir qu'ils avaient aussi un peu, comme j'aime bien dans Andor, ils sentent qu'ils réexploitent des fois les mêmes décors parce que ça leur a coûté cher, donc ils se disent il faut que ma scène dure longtemps dans un décor, et je trouve que c'est aussi un plaisir quand tu crées un univers. Et donc dans Le Retour du Jedi, je trouve ça marrant que t'es chez Jabba et puis t'as les droïdes qui viennent, et après d'un coup hop, ils restent coincés là-bas. Après t'as le même endroit avec les extraterrestres, avec Jabba, où là d'un coup il y a Léa et Lando qui arrivent, et bien entendu après eux ils se font avoir aussi, puis là hop, t'as Luke qui revient au même endroit. Et je pense que ça, c'est dû à une limitation technique, où ils ont dû tellement bosser et faire des créatures dans cet espace là qu'ils se sont dit on peut pas en 10 minutes bâcler le truc et partir ailleurs, quoi. Il faut qu'on tienne la cadence, et résultat, ça t'oblige à trouver des idées de scénario pour réussir à faire qu'il y ait plusieurs scènes qui se passent. Et des fois, je trouve que c'est pour le bien, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est plusieurs fois la même chose, mais c'est pas ennuyeux, quoi. À chaque fois, chaque perso apporte quelque chose de nouveau. Alors, ce qui me fait marrer, c'était des scènes comme... Ce qui me fait rire, c'est le côté toujours où quoi, ils ont pas toujours de budget. Ou à un moment, quand Léa dès qu'on gèle Han Solo, t'as déjà le rire de Jabba qui... Et puis t'as deux rideaux qui s'ouvrent avec déjà tout le monde derrière, parce que tu sens qu'ils se disent bon bah il faut qu'on place, on peut pas déplacer tout le monde, donc tout le monde est déjà derrière des rideaux avec des anneaux, tu vois le truc qui s'ouvre. Donc c'est des petits plans comme ça qui me font sourire parce que c'est
on voit le sujet de ce jour, oui. c'est des trucs comme ça, c'est
ben
un
voilà.
truc qui me fait sourire.
Mais oui voilà, bah, on va pouvoir en reparler et tout. Bref, en tout cas j'ai passé un super moment. Il y a le temps long que je trouve intéressant, que il faudrait que Star Wars n'en perde pas de vue, que j'ai aimé dans Andor et que j'espère qu'ils le retrouveront, et que dans certaines mises en scène, c'est par exemple quand il y a le Palpatine qui crache des éclairs, enfin qui jette des éclairs, il crache de sa bouche, il jette des éclairs de sa bouche. Voilà, on aurait pu ça dans la postologie, il aurait pu faire des éclairs de sa bouche. mais il crame Luke. Et en fait, j'avais oublié que cette scène dure quand même assez longtemps, quoi. Même quand il le brûle, tu sens qu'il souffre comme ça et tout, et ils font quand même durer le truc. Donc, c'est ce qui te met en empathie avec Luke, parce que tu sens vraiment qu'il y a le temps de se contorsionner, et le temps, grâce à ça, à Dark Vador, de prendre conscience qu'il va quand même sauver son fils. Mais voilà, j'ai toujours trouvé bien que des fois, il y a plein de temps longs comme ça, et plein de petites mises en scène que tu t'as oubliées, et que tu sens que c'est ce qui faisait celle de Star Wars, et qu'à l'époque, bah, ils avaient déjà... voilà, tout compris comment et que ça sert de je comprends que et que bon moi sur Andor sur Andor c'est très bien avec les Ewoks et tout ça, bon c'est toujours sympa quoi, c'est le début de l'acceptation effectivement de ce qui va être clivant pour Star Wars pour la suite, pour le
les petites créatures mignonnes,
voilà, jusque où tu en mets, etc. Donc voilà, même là dedans c'est, et il y avait le côté ce qui m'a fait rire c'est enfin, ouais, non, c'est aussi le côté. Ils font deux fois un geste. Tu sais, à mon avis, ça doit dater de ces années-là. Mais t'as Luke, quand il va sauter de la barge de Jabba, il prend ses deux doigts, puis il les met sur la tempe. Et il fait comme ça un petit salut pour dire salut et tout. Et en fait, Lando, à un moment, il fait pareil dans le film. À un moment, quand il part avec le Faucon Millennium, il refait son petit geste et tout. Et je me suis dit, tiens, ça devait être un geste qui devait être à la mode à l'époque. Et je me suis dit, ça y est, moi, je me suis dit, bah, je l'associe au geste Star Wars maintenant, donc voilà, qu'on ne verra pas ici au podcast, mais plus de news, non. Allez, on est parti. Alors avant que ce soit la fin de l'émission, on peut enchaîner tout de suite avec le sujet du jour. J'ai écrit trois lignes, hein, parce que voilà, je pense que personne n'a pu faire d'intro, d'habitude c'est Angok, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et on peut commencer avec, eh oui, Star Wars, ce n'est pas que de la contestation. Les fans qui se font la tête, qui crachent sur la prélogie, qui maugréent malgré tout sur la postlogie, ou qui conchient Filoni, ou qui protestent contre Jar Jar ou Lucas, ou tout ce qui touche à son univers. Laissons tout ça de côté pour la semaine prochaine. Et concentrons-nous sur le bon qui est en chacun de nous, et le meilleur du meilleur dans l'univers que nous aimons. Et oui, pour le thème du jour aujourd'hui, pourquoi Star Wars nous donne le sourire, délibération et verdict maintenant. Donc voilà, c'est l'occasion de faire le premier tour de table. Pourquoi, pour vous, Star Wars vous donne le sourire? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je veux bien me lancer, comme ça je rebondis sur ce dont tu viens de parler.
Ah bah cool.
Avec les Ewoks.
Ouais.
Et le début, les créatures mignonnes dans Star Wars... c'est pas forcément ce que je recherche le plus,
ouais.
Mais au final, quand je les vois et qu'elles sont bien représentées, bien amenées, ça donne quand même le sourire.
Ouais.
Notamment dans Ahsoka, je ne sais pas le nom de l'espèce.
Mais les escargots
avec leur carapace, là, j'aime particulièrement leur voix,
ouais.
Et le ton de leur voix. Même si c'est pas ce que j'attendais dans Ahsoka, on peut pas s'empêcher d'être un peu attendri devant leur société miniature, nomade.
Et ils sont quand même souvent, de ce que tu dis aussi, je trouve ce qui est génial, c'est que tu les sens très vivants à chaque fois. À chaque fois, tu te dis pas, ouah, c'est trois bouts de ficelle et tout. Non, étrangement, il y a une sorte de magie qui s'installe et que t'as vraiment envie de dire. Ils existent, t'as envie de croire à leur existence en fait, c'est ça qui est
et
cool.
Puis le côté marionnette qui ramène au premier Star Wars et tout, ils ont tout le temps alors je sais pas quels sont les procédés utilisés pour les faire bouger et les créer, mais il y a quand même ce côté marionnette dans leur mouvement, pas très naturel, un peu saccadé.
Oui, saccadé, qui donne
cette impression d'effet pratique, alors que pas du tout.
Et je rebondis vite fait, comme ça, vu qu'on n'aura pas le temps de tout développer encore plein de trucs, mais c'est le truc dans la postlogie qui m'a fait le plus rêver quand j'ai démarré la postlogie. Je reviens toujours sur le premier plan, quand j'étais au cinéma, où il y a une sorte de corbeau qui tape dans un truc en métal, et qui, je ne sais pas si tu vois le plan, c'est au tout début dans le désert où il y a le vaisseau de Rey qui fonce.
Oui.
Et à un moment, il y a une sorte de corbeau métallique qui tape. Et en fait, ça m'a hyper ému de revoir, pardon, de sentir que c'était, oui, d'une maquette que tu étais en train d'animer devant mes yeux. Et ça, je me suis dit, rien que ça, j'avais l'impression que ça avait déjà rempli mon verre pour me dire, je vais pouvoir profiter à fond de ce film que je suis en train de voir au cinéma. Donc tout le côté extraterrestre, marionnette et bout de ficelle Yoda, comme on disait tout à l'heure, qui est pourtant une créature qui n'existe pas. Mais quand Yoda est pour moi devant moi, il existe vraiment. Mmh. Et mes yeux d'enfant brillent, enfin d'adulte enfant, on va dire.
Et dans la dernière saison du Mandalorian, sur le même thème, j'avais bien aimé les petits mécanos oui, qui vivaient derrière leur trappe là.
Qu'on retrouve, tu veux dire dans la postlogie aussi
qui est... Alors je me souviens
les
plus.
Les tout petits, ils sont tout petits.
Ah oui. Il y en a en effet dans la postlogie, je pense. Mais oui, mes souvenirs de la postlogie sont trop flous.
Mais oui, je vois tous les tout petits qui ont réparé IG 98.
C'est ça, voilà, dans leur atelier là.
Ils sont tous très petits. Okay. Et ils ont des fers à souder, ils n'arrêtent pas, ils ont toujours leur petit casque et tout ça. Mais oui, ils sont sympas rien que par leur taille et...
Et leur voix aussi, encore oui, une fois, moi ça m'a...
La voix, les voix te marquent et tout. Et d'autres choses qui te donnent le sourire ou c'est vraiment super, avant tout
Après, moi je suis très sensible au lore... Dans ces dimensions plus épiques et plus grandes, on va dire. Donc quand je revois des personnages ou des références vraiment à la mythologie de la Force et à tout ce qu'il y a autour de la Force, ouais, les philosophies qu'il peut y avoir chez les Sith, chez les Jedi et tout, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie
qui énormément. Qui remonte un petit peu dans le temps, comme tu dis, pour aller un peu aux sources des fois et,
ouais,
et au côté d'où vient tout ça.
Après, je ne sais pas si ça me donne vraiment le sourire littéralement, mais c'est quelque chose que j'apprécie.
Bon, après, quand on disait sourire, c'était le ce qui donne envie d'aimer l'univers, quoi. Donc, en tout cas, c'est même un sourire intérieur, tu sais, parce que me dis, même si on ne sourit pas extérieurement... Et toi, Général Majax ?
Bah ouais, c'est vrai qu'il y en a, pour moi, il y en a deux, des sourires, c'est un peu comme les rires. T'as le rire, c'est la délectique du rire de l'ange et du rire du diable. Mmh. Le rire de l'ange, c'est celui... On sourit, on rit, juste de bonheur et de satisfaction. C'est l'enfant qui court dans le sable et qui se marre et tout, etc. Et ça, c'est le sourire... Ne serait-ce que...
Le résumé qui se déroule comme ça.
Et ah, c'est le bonheur.
Mais oui. Rien que le déroulé, il fait sourire, hein, c'est clair.
Et bien puis, il y a le rire du diable, qui est le rire un peu moqueur, on se moque et tout, etc., on rigole. Moi, ce qui... on passera le côté... Ça m'a beaucoup fait sourire, mais vraiment dans le bon sens, plutôt dans le bon sens du terme que dans la moquerie. On en a parlé, là, de nos échanges... passionné pour contre machin truc bidule. Mais moi ça m'a fait du j'ai à la limite c'était peut-être plus du rire de l'ange dans ce cas-là parce que j'étais heureux de partager en fait et je trouve que Ahsoka je l'ai apprécié vraiment d'une meilleure manière en le partageant comme ça ici que tout seul dans mon coin. Donc ça, c'était un sorte de sourire de l'ange, c'est le partage on va dire. Mais sinon moi je ce qui me fait vraiment marrer et sourire c'est les mêmes.
Ouais.
Les mêmes au fond, parce qu'ils rejoignent aussi ce sujet-là. Par exemple, t'as tous ces mêmes sur les 4, 5, 6, tu sais, d'origine. Quand je vois certains mêmes comme ça, mais même il y a des mêmes modernes sur les incohérences et un peu les absurdités du. Et donc, de
la prélogie. L'univers Star Wars, quoi.
Ou d'Ahsoka, par exemple, et ils te mettent en avant une incohérence. Mais avec humour et donc ça me fait mourir de rire. Par exemple, et après ça devient un mème, l'incohérence majeure moi du 4-5-6, je vous ai déjà parlé de l'absence de clé. Il n'y a aucune clé sur les speeders et ils se font voler dans les vaisseaux spatiaux comme on vole un vélo ici. Un autre truc qui est classique, vous l'avez tous entendu, c'est la capacité de viser des stormtroopers.
Ah oui,
ils sont extraordinaires. Et donc ça me fait sourire à la fois le mème. L'interprétation, ils font des vannes autour de ça. Puis après, quand je vais revoir le film et tout, etc., je fais. Mais toujours positif, parce que je passe un bon moment. Je fais. Ouais. Ah, non, il exagère. Je fais. Décidément, il ne s'est pas tiré.
Par contraste, avec le commentaire d'Obi-Wan au début du Nouvel Espoir, comme bah d'ailleurs cette citation est un mème justement. Quand Obi-Wan dit que ce sont les troupes d'élite de l'Empire que les tirs sont pas assez précis, sont trop précis pour être des tirs de d'hommes des sables.
Ah oui, bah.
il devrait y avoir une version Kaamelott de Star Wars.
Oui, oui.
Où en fait tu t'aperçois que partout c'est que des bras cassés. Ils sont tous nuls, tu sais.
D'avoir des sketchs comme ça. Ça marcherait bien avec des trucs un peu resserrés et tout. J'en profite aussi alors parce que je pense qu'on se rapproche malheureusement déjà de la fin de l'émission. On a fait beaucoup de présentations, de news, etc. Mais oui, bah moi c'était ce qui me donne le sourire, c'est que l'univers soit étendu hein, et qu'il puisse perdurer sur plusieurs générations comme ça et qu'il continue d'être alimenté, comme on disait, par de choses nouvelles. Donc c'est le fait, comme tu le disais, Gérald Malek, de pouvoir partager un même univers avec autant de monde et que ce soit même générationnel maintenant que le truc a pu perdurer de génération en génération et qu'on continue de tomber sur des gens alors qu'il y a plein d'univers qui malheureusement des fois ont du mal à réexister. Et donc le fait que tout cet univers vient d'un créateur passionné qui avait une vision précise de ce qu'il voulait faire et qu'il a pu le faire d'une manière quasi indépendante. En fait, tu vois, la prélogie, on parlait de la prélogie sur le fait que j'ai été dur et tout. Mais en revoyant le fait que de toute manière, c'est quelqu'un qui a quand même mis tout ce qu'il avait envie et on ne peut pas lui enlever, comme on disait, cette énergie qu'il a eu envie de faire et il a au maximum fait ce qu'il considérait comme bien pour son univers. Et ça, on ne peut pas lui enlever, quoi. Il y a une sorte de, je pense qu'il y a une sincérité dans ce qu'il a entrepris, George Lucas. Et alors moi je suis un fan de vaisseaux, alors vous me mettez des vaisseaux, des gros vaisseaux, gigantesques partout. Moi je fais une bataille spatiale, ça me donne le sourire. Et je trouve que Star Wars donne une énergie positive et optimiste hyper importante dans cet univers. Il y a quand même toujours à la fin, quand tu as regardé un Star Wars, j'ai pas l'impression de sortir d'un Star Wars en me disant j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Je sens que c'est des œuvres de pop culture qui te motivent à croire en la vie, en fait. Bizarrement, t'as l'impression, comme tu dis, avec les créatures mignonnes, parce que c'est pas le fait qu'elles sont juste mignonnes, c'est le fait qu'en fait il y a une forme de bienveillance.
Des gens moins puissants qui participent quand même à la vie de la galaxie.
Voilà.
Qu'on peut protéger, mais qui peuvent aussi se protéger eux-mêmes, comme avec les Ewoks.
Ben ouais, puis à la fin,
je ressens dans son aspect fantasy. On en parlait tout à l'heure, dans l'aspect fantasy, le conte de fées, le rêve, le machin, tu ressors, t'es boosté et tout. Moi, je ressors d'un Rogue One, je me rends à zéro.
Ouais.
C'est un bon moment.
J'ai passé un bon moment, mais effectivement, c'est entre Andor et Rogue One, c'est les seuls qui extirpent un petit peu ce côté. Mais en même temps, ça a tellement aussi été quand même, pour le coup, on parle souvent de, tu vois, un Rogue One, il m'a quand même tellement emporté que d'une certaine manière, même si l'énergie est un petit peu plus pessimiste, voilà, t'es embarqué quand même dans la grande aventure, j'allais dire.
Il y a en fait ton sourire de bonheur qu'elle a.
Voilà. La fin est évidemment très tragique, mais il y a quand même cet espoir, cette transition avec un nouvel espoir.
Oui, c'est un très nouvel espoir.
L'espoir est là à la fin de Rogue One quand même.
Eh bien, je pense que malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, mais en tout cas, je pense qu'on a vu qu'on était content de parler de Star Wars et qu'on était fan de l'univers. Merci à vous d'être passés, de nous avoir écoutés. Et puis, bah, n'hésitez pas, je suis sûr que vous aussi, vous savez pourquoi vous aimez Star Wars et que même si on n'arrête pas de râler, en tout cas, certains d'entre nous, je veux dire, on aura beau râler et tout. Moi, je sais qu'il y a énormément de choses que j'adore et que tout ce qui donne le sourire continuera de nous donner le sourire. Et je suis heureux de faire partie encore des... Certaines personnes ont vraiment définitivement fait un trait sur Star Wars en disant que pour eux, c'était plus Star Wars ou qu'ils étaient vraiment dégoûtés. J'avoue que je suis très heureux de ne pas l'être et de pouvoir encore quand même profiter de l'univers tout en sachant ce que j'aime bien. Et puis voilà, quoi, c'est pas grave si on n'aime pas tout. Bah, honneur aux invités, il n'y a pas de quiz, alors on n'a pas le temps, de toute manière, il n'y en avait pas. Donc voilà, tiens, je t'en prie. Alors j'allais dire... Ton prénom, ton pseudo, c'était...
Tourambar,
parce que sinon j'aurais dit n'importe quoi. Tiens, je t'en prie, pour le sujet, Tourambar nous prend le sujet de la semaine prochaine en espérant qu'il n'a pas déjà été pioché.
Obi-Wan pourrait-il être une trompette? Quels instruments auraient pu être les personnages de Star Wars?
Bon, bah, voilà. Hey, voilà, ok, bah, voilà, c'était très bien. Voilà, on l'a mis.
Il est cool aussi.
C'est un des derniers qu'on a mis et ce sera sympathique.
Bah, ça donne le sourire.
Ben oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça donne le sourire. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine.
Merci à toi.
Merci, au revoir.